alors que la terre tremble, alors que nous voyons toutes ces failles, toutes les conséquences des tremblements de terre, on voit ces images où la terre est littéralement coupée en deux, on voit ces grosses failles qui sont même surveillées par les sismologues. Eh bien, je ne peux pas m'empêcher de dire que bien que cette terre tremble, elle est entre les mains de Dieu, entre les mains de Dieu, son Créateur. Au psaume 95, versets 3 à 5, il nous est dit cela, « Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. » Les profondeurs de la terre sont entre les mains de l'Éternel. Vous le croyez ce matin? Et même quand la terre tremble? Et qui est l'Éternel? J'aime Ésaïe, la manière dont il parle de l'Éternel. Ésaïe 40, versets 12 à 14. Il est dit, Ésaïe dira, « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Pris les dimensions des cieux avec la pomme et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel? Et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Qui? Qui? On pourrait dire ce matin. Qui veut se lever et dire « moi » ou que tout le monde se taise à jamais? Qui, d'âge en âge, de génération en génération, qui peut enseigner l'Éternel? Qui a pu prendre des mesures des océans dans le creux de sa pomme? Qui peut enseigner la sagesse? Qui peut instruire l'Éternel? Personne. Tout le monde ne peut que se taire devant l'Éternel. Et c'est ce grand Dieu qui tient la terre, les profondeurs de la terre, qui a tout créé, qui a tout imaginé, où personne ne lui est égal dans la sagesse, dans l'intelligence. Eh bien, pourtant, la terre tremble. La terre tremble aux quatre coins du monde. Et qu'en est-il de nos vies? Parce que la parole de Dieu ne nous compare-t-elle pas à l'argile entre les mains du potier? Nous sommes comme de l'argile entre les mains du Tout-Puissant. Et Jésus dira lui-même, Jean 10, verset 28, que nul ne peut être ravi de sa main. Et pourtant, je ne sais pas pour vous, mais moi parfois j'ai l'impression que ma vie, elle tremble comme un tremblement de terre. D'un coup, il peut y avoir des failles, des choses qui viennent comme ça nous broyer, nous briser. Et on a l'impression que notre terre, notre cœur, entre les mains du Seigneur, eh bien, est comme cette terre complètement coupée en deux. Et pourtant, nous sommes entre les mains du Seigneur et nous pouvons nous proclamer ce matin, nous encourager en disant « Jésus lui-même a dit ». Que nous avons la vie éternelle et que nous ne périrons jamais et que personne ne pourra nous ravir de sa main. Amen. Mais nos vies tremblent, nos cœurs tremblent. Alors, permettez-moi ce matin de catégoriser pour nos vies trois tremblements de terre. Le premier tremblement de terre que j'ai répertorié, c'est notre repentance devant l'Éternel. Et nous allons l'évoquer ensemble. Ce sera mon premier point. Mon deuxième point de tremblement de terre, de catégorie de tremblement de terre, ce sera les épreuves dans la vie. Car qui ne passe pas par les épreuves? Tout le monde y passe. Et mon troisième point, le dernier tremblement de terre que j'évoquerai, ce sera le dernier tour du potier. Et permettez-moi ce matin d'évoquer avec vous la mort. Car il faut en parler, et il faut en parler comme la Bible en parle et comme Dieu voit notre mort. Alors je ne veux pas vous plomber l'ambiance ce matin, mais je crois fondamentalement que c'est important de pouvoir en parler parce que ce sont des moments qui brisent profondément notre temps ici-bas quand on perd quelqu'un. Mais je crois que c'est important aussi de comprendre ce que Dieu fait pour nous quand il nous ôte la vie et quand il nous reprend auprès de lui. Amen. Alors, mon premier point, il s'agit donc de la repentance. Et Je ne sais pas pour vous, mais quand si je vous demande de vous rappeler votre première rencontre avec le Seigneur, eh bien là, on se remémore à quel point on a fait ce face-à-face avec l'Éternel et à quel point on s'est rendu compte que notre vie, eh bien, on était petit devant l'Éternel. Et c'est, on vit tous, pardon, avec cette notion de bien et de mal. C'est une valeur éducative pour nos enfants. On leur apprend dès qu'ils sont tout petits ce qui est bien, ce qui est mal, les conséquences sur pour eux, en disant attention, si tu touches le four et qui est chaud, tu vas te brûler la main, si tu t'amuses à mettre le doigt dans les portes, tu vas te coincer les doigts, etc. Et on apprend comme ça, en fait, on est dans une société où on a cette valeur morale du bien et du mal. Mais cette valeur du bien et du mal, dans notre société, elle n'est jamais mise en exergue, en évidence au regard de Dieu. Et quand on arrive dans cette repentance, quand on apprend le bien et le mal, mais quand on se rend compte des conséquences de du mal qu'on peut faire par rapport à Dieu, alors tout notre regard change, toute notre conception change. Parce que les lois pénales, tout ce qui est écrit aujourd'hui, toute la législation, excusez-moi, mais ce n'est pas des chrétiens qui l'ont écrit. Mais c'est une valeur, c'est une morale dans notre pays. Mais quand d'un coup ton regard change et que tu comprends qu'il y a le bien et le mal, mais par rapport à Dieu, par rapport à l'existence de Dieu, du fait que nous avons tous été privés de la gloire de Dieu à cause de nos péchés, alors ça change quand tu te rends compte que Dieu est réellement vivant, que Dieu est saint et trois fois saint, que Dieu est tellement grand, majestueux. Alors toi, qu'est-ce qui commence à se passer dans ton cœur? Ça commence à se briser. Ça commence à se fissurer et tu te rends compte que tu es vraiment très petit par rapport à Dieu. Et alors, on est secoué. Mais j'aimerais nous rappeler ce matin que chaque moment de repentance dans nos vies, parce que je veux croire que ce n'est pas qu'au début de notre vie qu'on est dans cette repentance, mais c'est un style de vie d'être dans la repentance, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est l'auteur de la conviction de péché. Jean 16, verset 8, il est parlé du Saint-Esprit et il est dit que le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Lorsque tu es convaincu de péché, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Quand tu es brisé sous le poids du péché et que tu pleures devant l'Éternel parce que tu te sens mal face à ton péché, quand tu cries vers l'Éternel parce que tu veux une vie de sanctification, tu veux une vie droite avec l'Éternel, eh bien c'est l'huile qui est en train de couler sur ta vie. C'est le Saint-Esprit qui est en train de venir sur ta vie et qui est en train de te convaincre de péché et de vérité. Amen. Et j'aimerais nous encourager ce matin que dans ces temps de brisement, eh bien lâchons prise durant ces temps de repentance, parce que je crois profondément que plus nous serons brisés par le péché, plus nous serons brisés face à la sainteté de Dieu, face à la grandeur de Dieu, eh bien plus nous pourrons alors porter dans nos vases d'argile des fruits de la repentance. Alors nous pourrons porter cette sanctification et, comme Paul, marcher de progrès en progrès. C'est très bien de se rendre compte quand on démarre avec Dieu de, oui, tout l'amour de ce que Dieu a pour nous, de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il est bon, de tout ce qu'il est un papa merveilleux. Mais je crois profondément qu'il faut dans nos vies passer par des temps de brisement. Parce que sinon, notre vie n'est pas marquée de cette réelle repentance. Et l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 7, chapitre 7, pardon, verset 10, que la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Il est bon dans notre vie chrétienne d'éprouver de la tristesse face à Dieu. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans des temps de vie où je suis même pas triste, juste en me disant « Ah, Élise, tu te rends compte, juste regarder à moi en me disant « Mince, là, j'ai fait ça, franchement, Élise. » Mais par contre, c'est d'être écœurée, d'arriver à être écœurée, de crier à Dieu « J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi et contre le ciel. J'ai pris de la distance avec toi. » Plus juste regarder comme si on était déçus de nous-mêmes, mais pas s'arrêter à être déçus de nous-mêmes, être déçus du fait que j'ai pris de la distance avec Dieu. Être déçu du fait que j'ai brisé le cœur de Dieu, être déçu du fait que j'ai péché contre l'Éternel. Et ça, ça change la donne dans nos vies. Quand on est capable de crier devant l'Éternel, « J'ai péché contre toi !» Et parfois, on est juste pris de tristesse, mais quelque part, c'est juste notre petit ego qui est touché. Mais ce n'est pas par rapport à l'Éternel. Et je crois profondément que le Saint-Esprit veut nous faire rentrer parfois dans des temps de nos vies où nous allons être profondément brisés en criant « J'ai péché contre toi, Éternel !» Et alors, nous sommes cette argile entre les mains du potier pour devenir des vases d'honneur et ne plus être des vases vils. Et l'apôtre Paul dira la manière dont nous devons marcher. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 8. Nous allons alors renoncer, nous apprenons tout au long de notre vie à renoncer aux choses d'ici-bas. Si donc vous êtes ressuscités, donc là on parle de la résurrection, lorsque nous confessons le nom de Jésus, nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ spirituellement, nous sommes assis dans les cieux célestes, donc nous sommes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Nous devons renoncer, nous apprenons à renoncer dans les choses de la vie, dans toutes les tentations ici-bas. Et l'apôtre Paul avait vraiment cette conscience aiguisée au point où 1 Corinthiens chapitre 4 verset 4, il dira cela. Et je pense vraiment que l'Éternel veut nous amener à ces mêmes déclarations en disant que, il dira cela, « Je ne suis coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Et là, l'apôtre Paul, ce qu'il est en train de dire, c'est que, ok, il a sa conscience, on a toute notre conscience qui est aiguisée par le Saint-Esprit. Et on sait fondamentalement des choses qui sont bien et mal devant le Seigneur. On le sait profondément, c'est ancré au plus profond de nous. Mais l'apôtre Paul, il dirait que ce n'est pas parce que parfois il ne se sent pas coupable de certaines choses qu'il n'est pas en train de fauter. Et alors il s'attend toujours au jugement de l'Éternel sur sa vie. Il s'attend toujours à ce que d'un coup, Jésus-Christ puisse lui tomber dessus et lui dire « Là, tu dois te reprendre. Là, tu n'as pas bien fait. » Et ce n'est pas parce que parfois on ne sent pas la culpabilité qu'on n'est pas en train de pécher. Mais on doit encore découvrir ce qu'est la sainteté de Dieu, ce qu'est la sanctification dans le Seigneur. David dira au psaume 19, verset 13, « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. » Est-ce que ce matin, nous sommes capables, et dans les jours prochains, et dans les mois et les années prochaines, jusqu'à la fin de nos jours, d'être toujours dans le Seigneur et de dire, « Seigneur, même mes égarements, même ce que j'ignore, pardonne-moi. Pardonne-moi, c'est là où je n'ai même pas encore la conscience devant toi de mal faire. » Ça, c'est l'argile entre les mains du potier, entre les mains du maître, où on est des vases d'honneur, où on est en train de purifier, être sanctifié, où on est passé comme l'argile qui est tirée de la terre. Eh bien, l'argile tirée de la terre, pour être formée, elle a besoin d'être passée au broyeur, où on doit enlever les cailloux, où on doit affiner l'argile pour la faire devenir ce qu'on a envie qu'elle devienne. Et les mains du potier doivent passer comme ça à l'intérieur du pot. De l'intérieur, on vient affiner le tour, on vient affiner le vase. Et Dieu va affiner notre vase jusqu'à notre dernier souffle, mes frères et sœurs. Jusqu'à notre dernier souffle. Et il veut qu'on soit capable de dire, même mes égarements éternels, je te demande pardon pour ce que j'ignore. Permettez-moi de passer au deuxième point, aux épreuves de la vie. Car si je devais demander ce matin qui n'a jamais été éprouvé, je crois que finalement, personne ne lèverait la main. Tout le monde est éprouvé d'une manière ou d'une autre. Et Jésus-Christ lui-même a été éprouvé. La parole de Dieu nous dit que lui-même, fils de Dieu, il a été éprouvé, il a appris l'obéissance au travers des souffrances et il a été ensuite élevé à la droite de Dieu. Et comme on l'a chanté ce matin, la terre a tremblé quand Christ a été sur la croix. Le voile s'est déchiré et la terre a tremblé. Jésus-Christ, fils de Dieu, l'homme, a été brisé sur la croix. Il a pris les clous, il a pris les coups, il a pris la honte, il a pris nos péchés, son corps a été brisé. Et la terre, en même temps physiquement, a été brisée, la terre a tremblé. Et nous-mêmes, dans les épreuves, notre terre tremble. Nous sommes secoués comme ça. Jésus dira aux disciples que c'est... On parle aussi de l'image d'être criblé, on est passé. On passe comme ça, on est troublé, on est secoué. D'un coup, on ne sait plus comment le tour du pot de chevet, si c'est de gauche à droite ou de droite à gauche. On ne sait plus dans quel sens va nos vies. On est complètement renversé par des épreuves, par des situations de vie. Et on est complètement troublé, on peut être dans la confusion. Et pourtant, Christ lui-même a souffert. Lui, le parfait, lui en qui il n'y avait point de péché. Et je crois profondément que les temps d'épreuve sont une manière aussi pour nous de voir où on en est avec le Seigneur. Parce que proclamer que Dieu est bon, proclamer que Dieu pourvoit à tous nos besoins quand tout va bien, quand on a tout ce qu'il faut pour nous-mêmes et nos enfants, proclamer que tout va bien quand on est en bonne santé, proclamer que Dieu est souverain quand tu as tous tes êtres chers qui sont autour de toi, c'est très facile, franchement. On le sait, c'est facile de proclamer ces choses-là. C'est facile de dire « oui, Dieu pourvoit à tous mes besoins » quand tu as toujours de quoi manger dans ton assiette, quand tu sais comment te vêtir, quand tu vas dans les magasins qui te plaisent, quand tu sais comment vêtir tes enfants. Mais quand d'un coup, les mois sont plus compliqués, quand finalement la manière dont tu veux vêtir tes enfants, ce n'est plus possible, et que le regard des gens sur toi commence un peu à te peser parce que tu dis avant je ne m'habillais pas comme ça, avant j'avais peut-être plus, avant je pouvais manger plus, avant mon corps était en meilleure santé, maintenant je marche différemment, je me courbe sous le poids de mon corps, c'est différent. Et on se demande parfois, on peut se dire, et il y a des pourquoi sans réponse, et on se dit, où est la gloire de Dieu quand mon corps est malade? Où est la gloire de Dieu quand des gens que j'aime partent rapidement, brutalement? Où est la gloire de Dieu quand des enfants sont repris? Comment pouvons-nous encore proclamer que Dieu est bon, que Dieu est souverain? Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que Dieu est fidèle, que Dieu est bon en tout temps, que Dieu règne d'âge en âge, qu'il est souverain, qu'il est maître de l'univers, qu'il est maître de nos vies. Et alors, on est secoué comme ça. Et je pense que quand on est secoué comme ça, c'est parce que Dieu veut voir nos convictions. Je dis pas qu'il nous permet l'épreuve, genre je vais vous briser, je vais vous éprouver, et on va voir si vous allez tenir. C'est quoi qu'il en soit, ici-bas, nous serons éprouvés. Mais dans les temps d'épreuve, nous allons, comme l'apôtre Pierre, être face à nous entre ce que nous avons déclaré, peut-être parfois si facilement, mais là, on va devoir le déclarer, le proclamer au travers du feu. Et là, c'est différent. Et là, on va le proclamer avec nos entrailles. Et j'ai toujours en mémoire, lorsque j'étais jeune, on faisait partie d'un groupe qui s'appelait 100% pour Jésus avec mes frères et ma sœur. Et même Paul et Sandy, je pense que vous aviez participé aussi à ce mouvement-là. Et on rassemblait, en fait, c'était la jeunesse qu'on rassemblait dans le nord de la France. Ça s'appelait 100% pour Jésus. Et donc, on réunissait les différents jeunes de toutes les églises. Et on se retrouvait pour une journée pour vraiment passer du temps dans la présence de Dieu, chercher Dieu, être enseigné. Et durant ces temps-là, il y avait parfois des gens en fait qui venaient de la porte ouverte. Et un jour, il y avait une Pakistanaise qui venait nous témoigner de ce que Dieu faisait au Pakistan et elle, de finalement, le prix qu'elle payait au niveau de sa foi au Pakistan, puisque c'est un pays qui est persécuté. Les chrétiens, ils sont persécutés. Et je me souviens qu'elle nous parlera d'un gros tremblement de terre qu'il y avait eu en 2005. Elle nous dira que ce tremblement de terre avait été effectivement dévastateur, mais elle dira que ce tremblement de terre avait permis à des missionnaires de passer dans des endroits qui étaient jusqu'à maintenant inatteignables. Et je voudrais en fait que nous puissions ce matin nous dire que les épreuves de la vie vont non seulement nous permettre de proclamer dans le feu et de manière épurée ce que la parole de Dieu dit et de dire ce qu'est la vérité, Mais j'aimerais nous dire aussi ce matin que dans des temps d'épreuve, nous pouvons toucher des gens et Christ peut être manifesté au travers de nous comme il ne serait jamais manifesté si tu ne passais pas par cette épreuve. Vous me suivez ? Si on prend dans Acte 8, après que Étienne ait été lapidé, eh bien on sait que les disciples vont avoir un gros temps de persécution. Et ils vont partir dans les régions. Il dit qu'ils vont aller se cacher dans plusieurs villes, dans plusieurs régions. Et alors, d'un coup, l'évangile va être propagé, va être manifesté à gauche, à droite, en Samarie. Philippe va aller en Samarie, il va y avoir des prodiges, des miracles. L'œuvre de Dieu, l'évangile va être annoncé. Lorsque Paul et Silas vont être en prison, eh bien, le gardien va voir ce que Dieu fait miraculeusement, comment il les sort miraculeusement. Et lui et sa famille, le gardien et sa famille vont venir au Seigneur, vont se tourner au Seigneur. Lorsque Joseph, dans l'Ancien Testament, Joseph, trahi par ses frères, vendu, laissé pour mort auprès du Père, il va être une bénédiction incommensurable pour l'Égypte et finalement incommensurable pour sa famille. Il y a plein d'histoires comme ça dans la Bible où les circonstances sont dramatiques, dramatiques humainement, mais où l'huile du Saint-Esprit coule, coule. Au Pakistan, quand il y a eu le tremblement de terre, l'huile a coulé, les missionnaires ont pu passer. Dans nos tremblements de terre, dans nos épreuves, l'huile peut passer. Dans nos épreuves, Christ peut être manifesté. Les temps de guerre, les échecs, les rejets, nos afflictions, nos difficultés professionnelles, les trahisons, les moqueries, ton tremblement de terre, tes tremblements de terre passés, tes tremblements de terre présents, Dieu peut mettre sa main dessus et tu peux faire couler et de l'huile peut couler au travers de tes épreuves. Y a-t-il pas au milieu de nous des hommes et des femmes qui sont venus en France et qui viennent d'autres pays et parce qu'il y a eu la guerre dans leur pays, parce qu'ils ont dû quitter des conditions épouvantables dans leur pays? Et ces personnes parmi nous, ces frères et sœurs parmi nous, ne sont-elles pas source de bénédiction aujourd'hui? Des hommes et des femmes ont quitté leur pays pour venir en tant que missionnaires en France. Et elles sont source de bénédiction aujourd'hui. Et pourtant, ça leur a coûté de partir. Nous avons toujours le choix dans l'épreuve d'être fixés sur les circonstances dramatiques ou alors de lever les yeux vers le ciel. Et vous savez tous que, enfin, peut-être pour la plupart d'entre vous, certains vous ne connaissez pas, que dernièrement, ma famille et moi avons été éprouvés par la perte de mon papa, qui est décédé brutalement, en fait, il y a 2 mois. Et à chaque fois, Claude va m'encourager de la manière suivante sur certaines choses. Il me dira « Élise, fixe tes yeux vers le ciel. » Et Antoine, un jour, il va m'envoyer un message quand on parlait de ma date de prédication que j'ai dû repousser. Parce que normalement, je devais prêcher juste après l'enterrement de mon papa. Et il me dira « Lève les yeux vers le ciel. » Et vous savez, c'est quelque chose que j'ai fait de physiquement, en fait. Parce que si je regarde vers la terre, si je regarde au père, à mon père que j'ai enseveli dernièrement, j'ai pas de force en fait. Mais si je regarde vers le ciel, si dans les circonstances de ma vie, je regarde vers le ciel, même quand nous avons été éprouvés, Claude et moi, dans l'enfantement, alors je vois l'huile couler. Et alors je vois encore l'huile couler. Vous savez, ceux qui me connaissent très bien, vous savez à quel point Claude et moi, on a été éprouvés dans l'enfantement. Ou quand j'ai fait une grossesse extra-utérine, quand j'ai fait une fausse couche précoce. Et vous savez, une fois, alors que je venais d'apprendre que j'étais enceinte, eh bien, je ne savais pas si je devais prêcher ou pas, en fait, parce que je me mettais un peu à saigner. Je ne savais pas si ma grossesse allait tenir ou pas, mais mon message était prêt. J'avais une date de prédication et tout était prêt. Et je vais dire au Seigneur, je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas si je dois me tenir debout ou si je dois rester chez moi au chaud et me reposer. Je ne savais vraiment pas. Et je vais aller me coucher comme ça, parce qu'en plus, je faisais une gastro pour couronner le tout. Et je vais aller me coucher et je dis au Seigneur, je fais parle-moi, en fait, je ne sais pas ce que je dois faire. Ma gynécologue me dit que je peux y aller, que 30 minutes debout ne va rien changer aux circonstances, mais je n'avais aucune conviction. Et alors que je vais me coucher, le Seigneur va m'accorder un songe. Et je rêve, en fait, qu'un pasteur, en fait, m'explique la parole qui dit « Laissez les morts enterrer leurs morts ». Et alors que dans mon songe, ce pasteur m'explique cette parole-là, ensuite je me réveille, donc ce qu'il dit clairement ce pasteur quand on se parle comme ça, en fait c'est ben, tu peux soit te fixer sur les œuvres mortes et rester assise et ne rien faire, ou soit en fait tu peux avec la force de l'Éternel te lever et faire ce que Dieu t'a demandé et accomplir une œuvre de vie, une œuvre qui sera en bénédiction. Et quand je commence à me réveiller, l'Éternel me dit « Viens et suis-moi ». Alors ce dimanche-là, j'ai prêché. Et j'ai prêché avec la force que le Seigneur m'a donnée, avec l'huile que le Seigneur m'a donnée. Mais vous savez quoi derrière? Ma grossesse n'aura pas tenu. Et Dieu ne m'a pas dit qu'il allait me bénir et me garder cette grossesse. Il ne m'a pas promis, il ne m'a rien promis. Il m'a dit « Viens et suis-moi ». Et j'ai dit « Ok Seigneur, je prêcherai ». Sans savoir ce qu'il adviendra de ma grossesse, et je prêcherai. Et je me souviens encore de ce que j'ai prêché ce jour-là. Je prêchais sur l'autorité de la parole de Dieu et du fait que nous devions nous humilier devant la parole de Dieu et la laisser être en pleine autorité. Et je me souviens que lorsque j'avais fait un appel, eh bien, nous nous étions tous prosternés devant l'Éternel. Mais derrière, ma grossesse n'aura pas tenu. Mais Dieu, après, en son temps et dans sa souveraineté, va me donner Julia et Ruben. Et nous sommes pleinement désormais bénis. Et toi, dans ta vie, quelles sont les épreuves, quelles sont les circonstances dramatiques où, oui, tu peux t'arrêter à ce qui est mort, à ce qui est complètement brisé, fissuré, mais tu peux lever les yeux vers le ciel et regarder ce que l'Éternel va faire de toi. Ce que l'Éternel veut faire et veut déclarer au travers de toi. Les jeunes autour de toi que tu peux toucher, tes collègues, ta famille peut-être qui n'est pas encore au Seigneur. Alors, ce n'est pas évident. Parce que oui, il faut fixer les yeux vers le Seigneur. Et comme David le dira au psaume 57, versets 2 à 4, il dira à l'Éternel, « Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car c'est en toi. » Car en toi, mon âme cherche un refuge, je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que le malheur soit passé, c'est ça. Jusqu'à ce que le malheur passe, il nous faut être dans le refuge de l'Éternel, sinon on ne tient pas. Il faut accepter aussi durant nos temps d'épreuve d'être puissamment renouvelé par le Saint-Esprit. Parce que accepter de prêcher quand ta grossesse, tu ne sais pas ce qui va en advenir, accepter de prêcher quand tu as perdu un enfant, accepter de prêcher et d'être un fervent homme de Dieu quand tu perds tout autour de toi, de continuer à être un papa, une maman qui craint l'Éternel quand rien ne va dans ta famille, quand tu perds ton emploi, eh bien ça demande d'être puissamment transformé. Romains 12, verset 2, l'apôtre Paul dira « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Comment pouvons-nous distinguer ce qui est bon, agréable et parfait? Comment pouvons-nous distinguer la volonté de Dieu si nous ne sommes pas transformés, même dans les temps d'épreuve? Parce que dans les temps d'épreuve, nous avons besoin que notre regard sur les circonstances puisse être changé, puisse être transformé. Comment continuer à marcher avec les Seigneurs quand tu voudrais que son amour se manifeste autrement que par la croix en Jésus-Christ? On a envie de voir, moi, quand mon père était sur son lit de mort. J'avais envie de voir la puissance de Dieu. Et jusqu'à la dernière minute, ma famille et moi avons cru jusqu'au dernier moment que Dieu pouvait le relever et le guérir. Nous allons dire aux médecins qu'on croyait au miracle, qu'on croyait que Dieu pouvait les utiliser pour faire quelque chose. Comment croire encore en l'amour? Eh bien parce que nous devons nous focaliser, oui, sur l'amour manifesté en Jésus-Christ. Romains 8, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais ça, c'est tellement facile de le proclamer facilement quand tout va bien. Mais quand tu perds ce que tu as de plus cher, quand tu es brisé dans l'épreuve, quand tu es brisé au milieu professionnel, quand tu perds ton emploi, quand tu ne sais plus donner de quoi manger à tes enfants, quand tu quittes ton pays parce qu'il y a la guerre dans ton pays, quand tu quittes ton pays parce que tu es persécuté pour ta foi, c'est pas si évident que ça de dire « Ok, je fixe mes yeux sur l'amour de Dieu. » Mais l'amour de Dieu a été pleinement manifesté en Jésus-Christ et nos cœurs et nos yeux ne peuvent se fixer que sur ça. Sur l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, où il s'est offert librement pour nos vies, pour chacun d'entre nous. Et alors, comme l'apôtre Paul, nous pouvons déclarer, comme le Seigneur lui a dit, « Ma grâce te suffit », 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Amen. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et aux 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 5 à 10, l'apôtre Paul parlera de ses faiblesses de la manière suivante. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor, donc nous portons Christ dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse mais non dans le désespoir. Persécutés mais non abandonnés, abattus mais non perdus. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Dans tes temps de faiblesse, dans mes temps de brisement, dans tes temps de brisement, dans tes tremblements de terre, dans mes tremblements de terre, la puissance de Christ peut être manifestée si nous acceptons de changer l'angle de vue sur ces choses-là. Mais il nous faut fixer nos yeux vers le Seigneur, fixer nos yeux comme un funambule sur cette petite ligne. Parfois, on a l'impression que notre vie, elle marche comme ça. On est comme ça et on se dit « Waouh !» Là, ça secoue, mais je fixe mes yeux, je me réfugie en lui et je proclamerai en tout temps que l'amour de Dieu est manifesté au travers de du sacrifice de Christ. Amen. L'huile peut couler dans les tremblements de terre, comme les missionnaires ont pu passer et atteindre des peuples qui ne pouvaient être inatteignables. Les tremblements de terre nous permettent de toucher des gens que tu ne pouvais pas toucher auparavant. Tu fais une année supplémentaire d'études, tu vas toucher des gens que tu ne pouvais pas toucher auparavant. Tu changes de travail, tu te rencontres d'autres personnes, tu peux toucher des gens que tu ne rencontrais pas auparavant et tu peux leur parler du Seigneur. Amen. Je passerai maintenant au troisième point, qui est donc le tremblement de terre de la mort. Christ lui-même y est passé pour nous donner et pour vaincre la puissance des ténèbres. Et on le sait forcément, et Job dira que s'il y a bien un rendez-vous que tous les humains ont, eh bien c'est avec la mort. Nous allons tous mourir, sauf si Jésus revient avant. Peut-être certains d'entre nous partiront avant le retour de Jésus, peut-être que certains d'entre nous verront le retour de Jésus et ne mourront pas physiquement, mais quoi qu'il en soit, tant que Jésus ne revient pas, eh bien nous naissons tous avec une date de naissance, un trait d'union, et une date de fin. Nous sommes dans une société qui nous parle toujours où on augmente l'espérance de vie. Il y a des milliardaires qui injectent je ne sais bien combien de millions d'euros, de millions de dollars pour trouver cette formule magique qui va nous permettre de combattre la mort, qui permet de rajeunir. Et dernièrement, il y avait un milliardaire, il disait qu'il avait 30 médecins autour de lui qui s'occupaient, en fait les médecins s'occupaient de chacun de ses organes pour l'aider à rajeunir. Il boit même du plasma de son fils qui est plus jeune pour rajeunir. Mais c'est des gens qui sont dans la high-tech, dans la Silicon Valley, qui injectent des milliards de dollars pour ça. Alors peut-être qu'ils ralentissent un peu leurs rides et qu'ils sont encore un peu tout beaux, plus beaux que d'autres, etc. Mais tôt ou tard, ils vont passer par la mort. Genèse 3, verset 19 nous dit « Cela, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Nous sommes vases d'argile, la terre qui est tirée, qui est broyée, qui est sanctifiée, qui est épurée au travers des épreuves. Et là, lorsque nous sommes sur cette fin de vie, eh bien, nous sommes sur ce dernier tour du potier. » Alors forcément, on est comme ça, on espère tous que, ça se fera dans l'ordre chronologique, que les plus vieux partiront, que les plus jeunes resteront. Et on espère tous que ça se fera aussi de la manière la plus douce et la plus normale possible, sans trop d'encombre et sans trop de souffrance, parce que c'est notre espérance humaine. Mais je crois que la vie nous apprend que finalement l'ordre chronologique n'a pas toujours autorité et que la douceur n'a pas non plus toujours autorité sur la manière de mourir. Et il faut se le dire, c'est que dans ce dernier tour de potier, eh bien, le Seigneur il doit enlever ce dernier caillou. Ce dernier caillou pour que nous puissions un jour être pleinement ce vase d'honneur et remplir un jour cette pleine identité, ce plein potentiel que l'Éternel veut nous donner. Cette vieille carcasse, ce que nous sommes, là, ce qu'on a été fait de poussière, elle doit partir. On doit quitter ce corps. Et l'apôtre Paul en parle magnifiquement dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 50 à 58. Il nous parle de ce dernier tour du potier. Il nous dit « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous parce que certains, peut-être, verront le retour de Jésus. Mais tous, nous serons changés. » En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Notre perfectionnement ici-bas, notre sanctification ici-bas n'est pas vaine. Notre service pour le Seigneur n'est pas vain, mais nous pouvons nous sanctifier au maximum. Nous pouvons servir Dieu au maximum de toute notre force ici-bas, de tout notre cœur pour l'Éternel ici-bas. Un jour, il nous faudra quitter ce corps corruptible pour enfin revêtir l'incorruptible. Parce que même si nous nous sanctifions au maximum, nous ne pouvons pas, avec notre corps ici-bas, rentrer pleinement dans la présence de Dieu majestueuse et qui est invisible encore pour nous aujourd'hui. L'œuvre du potier, ce dernier passage, il ôte le dernier caillou, il ôte notre corps corruptible pour nous revêtir d'un corps incorruptible. Et alors nous entrons dans la gloire céleste, alors nous retrouvons la patrie céleste, tous ceux qui nous ont précédés, et alors nous sommes dans cette éternité, dans cette joie céleste. Et j'aimerais nous rappeler ce matin que ce dernier tour du potier, ce n'est pas l'œuvre de Satan. Quand nous mourons en Christ, aussi brutalement la mort puisse être, Dieu a toujours son dernier mot. La parole de Dieu nous dit au psaume 23 que l'Éternel est le bon berger. Il est avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est là avec sa houlette et son bâton. Il oint d'huile nos têtes. Et vous savez, il y a un an de cela, la dernière fois que j'ai prêché, c'est le 16 décembre, 2023, et je me souviens avoir proclamé ici même dans ce lieu que dans l'ombre de la vallée de la mort, l'huile du Seigneur coule sur nos têtes, et que lorsque nous sommes même dans notre cercueil, alors que nous passons de la vie ici-bas à la vie éternelle, eh bien il y a l'huile du berger qui est là, il y a le berger qui est là avec sa houlette et son bâton. Et ça, je l'ai proclamé ici en étant non endeuillée. Et vous savez, ce matin, je veux encore le proclamer ici en étant endeuillée, en étant cette fille qui a été brisée par la mort de son père, d'avoir vu mon père être parti aussi brutalement. Eh bien, je le déclare non seulement pour mon père, mais pour chacun d'entre nous. Et je le déclare pour ceux qui partiront encore après, que l'huile du Seigneur coule sur nos têtes et que le berger est là avec sa houlette et son bâton et il réceptionne chacun d'entre nous le dernier tour du potier. Eh bien, il est là, il fait ce dernier tour, il nous ôte la vie ici-bas, il nous reprend, mais pour enfin être dans cette gloire céleste, dans cette identité pleine et entière, revêtue d'une robe blanche, où la parole de Dieu nous dit que nous avons un caillou nouveau, un caillou blanc qui est remis à chacun d'entre nous, et dessus il y écrit un nom qui est en référence avec qui tu es, ce que tu as été ici-bas. Alors tout ce que nous sommes ici n'est pas vain. Tout ce que nous avons eu comme épreuve ici n'est pas vain. Nous sommes épurés, nous sommes transformés, nous sommes sanctifiés pour arriver à ce dernier tour du potier où nous serons enfin dans la patrie céleste. Amen. Et je voudrais finir, juste encore deux minutes, sur ce témoignage suivant. Donc comme je vous l'indiquais, mon papa est décédé il y a de cela 2 mois et ça a été très brutal. Il est décédé d'une endocardite qui a été foudroyante pour lui. Il sera opéré et alors qu'il est opéré, donc le mercredi 9 octobre, il va faire un arrêt cardiaque sur la table d'opération et il ne s'en remettra pas. Et donc nous, on va le voir en réanimation pendant les 2 jours qui suivent et il décédera. Donc le 11 octobre, parce que de toute façon, son corps était complètement... il était éteint et Dieu n'a pas donné ce miracle, mais Dieu, dans sa souveraineté, l'a repris. Et je me souviens que donc il a été opéré du mercredi et le jeudi, j'avais tout le temps cette phrase-là qui résonnait en moi, « Il faut que le vase se brise. Il faut que le vase se brise. » Et le vendredi, quand on savait que thérapeutiquement, il n'y avait plus aucun espoir, et alors que je vais aller dans cette chambre avec mon papa, ce que je vais faire, c'est que je vais lui prendre la main et je vais me mettre à genoux. Et en fait, je vais commencer à remercier Dieu pour tout l'héritage spirituel que notre Père a donné, pour toute cette huile qui a coulé sur notre vie, sur notre famille. Et je vais demander à Dieu en disant que cette huile puisse couler sur les générations qui suivent, sur mes enfants, sur mes neveux et nièces, sur ceux qui nous suivront. Et vous savez, après, il y a Dan qui va venir et qui va en fait nous dire les paroles qu'il a reçues pour mon papa. Et c'est les paroles qu'il recevra, c'était le temps pour lui qu'il ait cette main qui ouvre la cage et le cheval blanc part dans cette étendue et où il partait de nouveau avec le Seigneur dans ce plein potentiel. Mais c'est une chose de l'entendre, mais après, il faut le mouliner dans ses entrailles, hein, parce que vous vivez tout ça et vous voyez votre papa qui est sur son lit, en fait, sans vie, sans rien. Et Dan va nous emmener comme ça dans un temps spirituel très fort. Et moi, je vais vraiment me mettre à partir en langue, comme vous me connaissez, où il y a ce temps en langue qui part. Et Dieu va me donner l'interprétation, il va me donner ces paroles-là en me disant « Qu'y a-t-il de plus haut que mes cieux ?» Laissez-le rentrer à la maison, il sera dans les cieux les plus hauts. Et dans les jours qui ont suivi, je vais rêver en fait de nouveau de cette parole-là, mais pas en parlant des cieux les plus hauts, mais l'Éternel me dira, qu'y a-t-il de plus beau que mes cieux ? Il est dans les cieux les plus beaux. L'huile a coulé dans un temps de brisement le plus total de ma famille. Perdre un être cher, perdre notre papa. L'huile a coulé au travers des dons, au travers du don prophétique de Dan, au travers de la parole que Dieu m'a donnée, au travers aussi d'une image que l'un de mes frères aura. L'huile a coulé parce qu'on a gardé les yeux fixés sur les seigneurs brisés, mais consolé de l'espérance de la vie éternelle que mon papa a et du fait qu'un jour nous serons tous ensemble. Et vous savez, lui, il a continué de couler pendant l'enterrement. Je voulais vous dire et vous encourager parce que les équipes du salon funéraire qui étaient là ont été touchées et le maître de cérémonie nous dira, lorsque nous serons au cimetière, il dira « J'ai déjà assisté à énormément d'enterrements de ma profession, mais c'est la première fois que je vois autant de force et autant d'espérance. » Une de mes collègues qui a assisté à l'enterrement me dira « Élise, je suis rentrée chez moi, j'ai appelé mes parents. Je leur ai dit « C'est parce que je suis née catholique, mais sinon je deviendrai protestante comme eux. Parce qu'ils ont une force que nous, on n'a pas. Ils ont une légèreté dans le cœur que nous, on n'a pas. Nous, quand il y a la mort, il y a la culpabilité. Eux, quand il y a la mort, il y a l'espérance de la vie éternelle. » Je vais retourner au bureau, je vais pleurer littéralement. Mais je vais dire que oui, c'est dur, mais que notre consolation, c'est l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Ma sœur va rencontrer le chirurgien qui a opéré mon père. Et le chirurgien dira à ma sœur, vous savez, votre papa, il est dans les cieux. Alors ma sœur lui dira, vous êtes chrétien? Il dira, je crois en Dieu, mais j'ai une éducation assez stricte, donc j'ai un peu de mal avec Jésus-Christ et la religion. Et ma sœur va lui demander si elle peut prier pour lui. C'est magnifique. Elle prie pour le chirurgien qui a opéré mon père. Et il a accepté qu'on puisse lui donner une Bible. L'huile coule au plus profond de nos désespoirs. L'huile coule au plus profond de nos épreuves. L'huile coule et on peut toucher des gens qui seraient inatteignables dans d'autres moments de nos vies. On n'aurait jamais rencontré ce chirurgien. J'aurais jamais pu parler peut-être d'une certaine manière de l'espérance de la vie éternelle quand tu es brisé, quand t'en parles avec une conviction que l'Esprit du Seigneur te donne. Amen. L'huile coule. Mais il nous faut nous abandonner entre les mains du potier. Il nous faut accepter pleinement sa souveraineté. Et ça se fait dans les cris, dans la douleur. Mais les mains du potier sont là. Et jusqu'au dernier tour, le potier continuera et agira. Et un jour, nous nous retrouverons tous ensemble à réunis, nous serons dans les cieux célestes ensemble, chantant la gloire de Dieu et œuvrant pour l'éternité avec le Seigneur. Amen. 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 Alors, je vais laisser Antoine prendre la suite, mais je voulais vraiment vous encourager ce matin. Les mains du potier sont là. Les mains du potier sont là jusqu'à la fin. Et un jour, nous serons dans cette gloire céleste tous ensemble. Amen. Amen.